carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Quel lien peut unir Chantilly et son château, celui des princes de Condé et l'Asie? Tout simplement, le goût et la passion des objets d'art venus de Chine et du Japon au XVIIIe siècle, grâce à l'un de ses princes, Louis-Henri de Bourbon, mort en 1740. Il constitua une exceptionnelle collection d'objets précieux, allant de pièces textiles aux arts de la table, dont un grand nombre de porcelaines. D'où vient cette fascination? Comment ce prince met-il en valeur ce goût pour l'exotisme à Chantilly, si fréquent dans les milieux nobles de son temps? Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine en charge du musée Condé à Chantilly, est avec nous aujourd'hui pour évoquer ce goût pour l'Extrême-Orient à l'occasion de l'exposition « Singes et dragons, la Chine et le Japon à Chantilly au XVIIIe siècle », une exposition du musée Condé du 14 septembre 2011 au 2 janvier 2012. Nicole Garnier, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquez-vous l'engouement du XVIIIe siècle pour les arts venus d'Asie?
Alors, la Compagnie des Indes introduit en Europe, depuis le XVIIe siècle, des objets précieux de toute nature, venus par voie d'eau de Chine, du Japon, des pays d'Asie. Il y a bien sûr des meubles en laque, il y a également des indiennes, des tissus, des textiles, et puis surtout il y a ce qu'on appelle l'or blanc. C'est la porcelaine, la fameuse porcelaine, donc que la Compagnie des Indes va faire venir et qui fait rêver les Européens. La Compagnie des Indes la diffuse à partir de la Hollande en particulier, et la France connaît une passion pour ces objets d'art précieux.
Comment arrivent-ils alors à Chantilly?
Alors ils arrivent à Chantilly, donc vendus par la Compagnie des Indes, et la plupart des princes de l'entourage royal vont en acquérir pour leur collection personnelle. C'est le cas du duc d'Orléans à Saint-Cloud. C'est le cas aussi, bien sûr, de Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé, qui est le propriétaire de Chantilly, qui se passionne pour le Japon, pour la Chine, au point qu'il va même créer des manufactures pour développer des arts tout à fait comparables. Mais sa collection est une des premières de France et elle va orner les salons de son château de Chantilly. Ça, on le sait surtout, grâce à l'inventaire après décès du duc de Bourbon, qui meurt en 1740, et son inventaire après décès recèle des trésors, cabarets précieux en laque ou en porcelaine de Chine et du Japon, coffres, indiennes, tissus rares, soie brodée, tous ces objets sont à profusion dans les salons de Chantilly.
Est-ce que c'était courant comme ça d'initier une collection?
Non, c'est pas courant, seuls les très grands personnages du royaume peuvent se permettre un tel luxe, une telle préciosité, ce sont des objets effectivement d'une grande rareté, d'une grande qualité.
Est-ce que ça pouvait porter ombrage au roi de se lancer dans une collection comme ça?
Alors le roi lui-même va commander des pièces pour sa collection. Nous avons entre autres dans l'exposition une paire de seaux à rafraîchir qui portent les armes du roi Louis XV, on est en 1739, et ces pièces donc qui sont fabriquées en Asie mais pour servir en Europe reprennent des formes qui sont celles utiles aux manières de table de l'Occident. Les seaux à rafraîchir pour mettre les bouteilles qu'on doit boire très, très fraîches à l'époque, c'est la coutume, ça n'existe évidemment pas au Japon. Ce sont des pièces qui sont conçues uniquement pour l'usage en Europe. Donc c'est quelque chose qu'on fait venir à grands frais, que le roi Louis XV commande en Chine, au Japon, pour son service de table.
Est-ce à dire que les pratiques même de la table peuvent évoluer en fonction de ces objets, ou est-ce qu'on adapte ces objets décoratifs mais aussi pratiques à l'art de la cuisine européenne? Quels sont les échanges?
Les arts asiatiques vont produire en fonction de nos manières de table à nous. On va produire également des meubles en laque qui pourront s'adapter aux intérieurs occidentaux. On va avoir des assiettes, par exemple. Des assiettes, c'est quelque chose qui n'est pas du tout courant en Asie, bien sûr. On mange plutôt dans des bols. Donc on va reprendre des formes, des couverts aussi. On va trouver en porcelaine des manches de couteau, des manches de fourchette. Ce qui n'existe évidemment pas en Asie, où on utilise des baguettes.
Cette exposition présente à peu près une centaine,
103 pièces,
103
oui.
pièces que le public peut voir dans cette exposition. Singes et dragons, la Chine et le Japon à Chantilly au XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce qui passionne au fond Louis-Henri de Bourbon, le prince de Condé à Chantilly, qui est propriétaire du lieu, qui est entrepreneur, c'est un grand mécène, il lance cette collection, mais au fond, qu'est-ce qui l'intéresse, lui? Présentez-nous un peu ce personnage.
Alors Louis-Henri, c'est le grand prince mécène de Chantilly au XVIIIe siècle, c'est l'arrière-petit-fils du grand Condé, il a une fortune prodigieuse, qu'il va encore accroître grâce au fameux système de l'As, du nom de cet Écossais, John Law, qu'on prononçait las au XVIIIe siècle, qui crée le premier système de papier-monnaie. Et des lits d'initiés, bien sûr. Le duc de Bourbon va changer ses actions très vite. Au moment de la faillite de la rue Quincampoix, il sera un des premiers. Donc, il va construire les grandes écuries. Il va redécorer les grands appartements de Chantilly, faisant poser ses lambris blancs et or magnifiques sous la direction de son architecte Aubert. Il va donc collectionner. Il est aussi politiquement un personnage important. Il est cousin du jeune roi Louis XV, dont il est très largement l'aîné. Il va être donc chef du conseil de régence pendant 3 années. Il va donc avoir un rôle politique essentiel et il va aussi chercher à limiter dans un but économique les importations des objets qui viennent de Chine et du Japon. Et il va chercher donc à Chantilly même les recettes qui permettront de copier les productions chinoises et japonaises qu'on importe alors à grands frais par la compagnie
des Indes. En fait, il a envie de connaître le secret de ces porcelaines.
Le secret de l'or blanc. C'est voilà, comme ça qu'on l'appelle.
Quand même,
il est un peu chimiste. Hein. Il faut s'imaginer qu'on est au début du XVIIIe siècle. Il s'est créé dans les sous-bassements de son château de Chantilly, un endroit qu'on appelle dans l'inventaire après décès du duc de Bourbon. On a découvert le nom, l'hôtel Pékin. Alors ça s'écrit P-E-Q-U-I-N, mais évidemment ça fait probablement allusion à la Chine, à la ville de Pékin. Et dans cet hôtel Pékin, avec ses chimistes, avec les artisans qu'il fait venir à Chantilly, comme Sikir Sirou, comme Jean-Antoine Fraisse, il va rechercher les secrets. Les secrets du lac, le fameux lac d'or qui recouvre les mobiliers fragiles qui viennent de Chine, du Japon. Il va chercher surtout le secret de la porcelaine. Et pour ça, il demandera à Sikir Sirou, donc ses recettes, il fera venir ce porcelainier qui travaillait auparavant à Saint-Cloud pour le duc d'Orléans. Il va le faire venir à Chantilly et il va lui produire un privilège qui va lui permettre donc de réaliser des porcelaines imitant les porcelaines de Chine et du Japon. Ce ne sera jamais de la vraie porcelaine. À Chantilly, on n'utilisera jamais le kaolin, cette argile blanche qui permet de réaliser la véritable porcelaine, celle qui est parfaitement sonore, translucide. Voilà. Ouais. Alors que la porcelaine tendre, c'est une imitation. Donc avec Sikir Sirou, on va tâtonner.
Opaque.
C'est un peu plus opaque. La pâte à l'intérieur est un petit peu jaunâtre. Et elle est recouverte donc d'une couverte, d'un enduit blanc, qui imite la porcelaine, mais qui est rayable, d'où le nom de porcelaine tendre. Quand on utilise le couteau ou la fourchette, on peut abîmer la couverte de la porcelaine tendre de Chantilly. Alors cette porcelaine tendre, elle aura une durée de rayonnement assez courte, hein, puisqu'on situe les débuts de la manufacture entre 1725 et 1735.
Alors, il crée une entreprise,
vraiment,
on va dire.
Voilà, alors déjà, à l'origine, on cherche la recette
au
dans le laboratoire Pékin,
là,
dans l'hôtel Pékin, dans le château. Et puis ensuite, Sikir Sirou achètera des locaux en ville, à Chantilly, dans une rue qui s'appellera la rue du Japon, ça veut tout dire. Aujourd'hui, c'est la rue de la machine, rue de la machine de Mans, la fameuse machine qui monte les eaux de la rivière Nonette dans les systèmes hydrauliques qui alimentent les fontaines du parc du château.
Anciennement appelée alors la rue du Japon.
La rue du Japon, voilà. Et dans cette rue du Japon, Sikir Sirou produira donc de 1735, la manufacture durera jusqu'à la Révolution. Mais très vite, à partir de 1766, on va découvrir du côté de Limoges, à Saint-Thiriet précisément, les gisements de vrai kaolin, cette argile blanche qui permet de faire la porcelaine dure.
Donc là, tout va changer.
Tout va changer. Et donc Chantilly va peu à peu décroître, cependant que la manufacture royale de Vincennes puis Sèvres, qui a le privilège royal, qui est la seule à pouvoir utiliser l'or fin, pour dorer les pièces, notamment par un trait fin autour du marli, au bord de l'assiette, va concurrencer et faire décroître bien sûr Chantilly. Donc Chantilly s'arrêtera à la Révolution.
Alors, il a beaucoup fait sur les terres du château, il a créé cette manufacture de porcelaine, mais il a aussi créé une manufacture pour les indiennes, les tissus, et puis une troisième pour les lacs.
Oui.
Donc il y a vraiment une volonté de production.
Tout à fait.
Temps, avec tout l'esthétisme qui va avec, qui accompagne ce goût pour l'exotisme. Comment a-t-il mis en valeur ce goût pour l'exotisme à Chantilly même?
Il a décoré ses appartements déjà. Les appartements de Chantilly étaient emplis en 1740, à la mort du duc de Bourbon, d'objets tous plus précieux les uns que les autres, de cabarets en lac, de mobilier précieux, d'indiennes.
On sait celui de ces objets qui avait vraiment sa préférence ou qu'il avait près de lui, s'il y avait un espace intime pour le prince, je ne sais pas.
Alors il y a un espace de réception très important qui est la galerie des actions de Monsieur le
Alors,
Prince, la galerie des batailles. Et
qu'est-ce
là, on y trouve, entre autres, le grand coffre en lac du Japon, qui est présenté dans l'exposition, bien sûr, qui est un des rares meubles qui soit à Chantilly depuis le XVIIIe siècle, puisque le château a beaucoup souffert de la Révolution. Mais celui-ci nous a été conservé. Donc c'est un coffre gigantesque, extrêmement massif, en bois, recouvert donc de lacs d'or du Japon, qui figure toute une famille de coqs, de poules et de poussins. C'est extrêmement charmant. L'intérieur est d'un rouge sang-de-bœuf extraordinaire. L'extérieur du coffre est noir, avec ces oiseaux donc brillants de tout leur feu, puisqu'ils sont recouverts de lacs d'or. Donc un mobilier extrêmement précieux, extrêmement chamarré, et qui était très apprécié du prince, puisqu'il l'exposait dans son appartement, là où il recevait le roi,
la
cour.
Ce sont aussi des objets d'apparat.
Oui. des objets d'apparat qui étaient aussi censés montrer l'importance du duc de Bourbon, qui est quand même un des tout premiers personnages du royaume après le régent Philippe d'Orléans. Et il sait que Louis XIV, son fils n'a pas régné, son petit-fils n'a pas régné, c'est son arrière-petit-fils, un enfant de 5 ans qui est monté sur le trône. Il suffirait de quelques décès à la cour de France pour que le duc de Bourbon soit lui-même appelé à monter sur les marches du trône. Donc évidemment, les objets asiatiques jouent aussi sans doute un rôle dans la volonté de démonstration de puissance de ce prince.
Et puis il y a ce goût, cette recherche de la perfection, auquel il est visiblement très sensible. Alors à partir de quoi s'inspirent les porcelainiers de la manufacture de Chantilly ?
Alors ils vont travailler à partir de modèles que leur propose un important personnage qui s'appelle Jean-Antoine Fraisse. Jean-Antoine Fraisse, c'est le responsable de la manufacture d'indienne. Donc c'est lui qui, né à Grenoble en 1680, mort à Paris en 1739, va développer cette manufacture d'impression sur tissu pour le duc de Bourbon. Et au-delà de sa technique d'indienneur, il grave sur bois, c'est la technique habituelle de l'impression sur étoffe, il grave aussi en taille douce, sur cuivre, et il va réaliser, probablement à la demande du duc de Bourbon, en 1735, un ouvrage précieux qui s'appelle le Livre de dessin chinois. Alors dessin, ça ne s'écrit pas comme notre dessin actuel, c'est l'orthographe du XVIIIe siècle, c'est dessin EINS, c'est-à-dire le projet. Et ce projet de réaliser des copies des porcelaines asiatiques, eh bien, va donner lieu à un magnifique ouvrage qui va être réalisé en un tout petit nombre d'exemplaires, 13 exemplaires en tout, dont seulement 3 en couleur. Nous en avons un à Chantilly. L'autre est à la Bibliothèque nationale de France. Elle est actuellement, cette pièce exceptionnelle, dans l'exposition Saint-Gédragon jusqu'au 2 janvier. Et un troisième exemplaire s'ouvre à Bruxelles, à la Bibliothèque royale Albert Ier.
Donc c'est un grand ouvrage.
C'est
avec
un grand ouvrage,
une
folio avec une 60aine de planches en couleur. Donc ce sont des gravures en taille douce, certaines de très grandes dimensions. Ce sont des prouesses de l'art de la gravure. Des gravures du XVIIIe siècle qui mesurent plus de 3 mètres de long pour certaines d'entre elles, 3 mètres et 3 mètres 50, et qui sont coloriées à la main.
Et l'ouvrage que vous avez à Chantilly dans la collection est entier.
Il est entier, absolument.
C'est exceptionnel.
On a restauré toutes les planches à l'occasion de l'exposition. On présente les deux grands rouleaux qui font 3 mètres et 3 mètres 50 sur les murs de l'exposition. Après l'exposition, ils rejoindront bien sûr la reliure précieuse qui l'abrite, montée sur anglais, après restauration. Ils rejoindront donc la bibliothèque du château. Et c'est pour la première fois qu'on montre cet ouvrage rarissime depuis des siècles, en fait.
Alors
cet ouvrage donc inspirait les porcelainiers de Chantilly. Le but de Fraisse, en copiant les objets asiatiques de la collection du duc de Bourbon, c'était de fournir des modèles aux porcelainiers, aux indienneurs, ça c'était son rôle propre, et aussi aux décorateurs en laque.
Citons quelques mots de la préface de Jean-Antoine Fraisse au duc de Bourbon. « Votre Altesse Sérénissime vient de mettre le comble à ses bontés en me permettant de lui présenter un ouvrage que j'ai entrepris depuis et que j'ai l'honneur d'être à son service. Occupé par ses ordres à rassembler de toutes parts des dessins pour exécuter les travaux qu'elle m'ordonnoit. Je n'ai pas cru pouvoir mieux faire que de puiser dans les ouvrages des Chinois ce goût qui fait l'objet de nos recherches et que nous nous efforçons d'imiter. Mais quel lieu dans le monde pourvoit me fournir une plus belle collection de ce qui est sorti de plus précieux de la Chine et des Indes que le château de Chantilly ?» Voilà, sur ces belles paroles qui ouvrent ce livre, suit ensuite les dessins extraordinaires, les planches gravées. Et les auditeurs peuvent d'ailleurs, même en dehors de l'exposition, retrouver toutes ces planches dans un magnifique livre qui est en fait la publication fac-similé du livre des dessins chinois, donc d'après ses originaux de Perse, d'Inde, de Chine et du Japon, dessiné par Jean-Antoine Fraisse et c'est publié aux éditions Monelayo. Voilà. Nicole Garnier, à l'époque, on copie des objets venus d'Asie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est l'Asie qui copierait nos produits. Copier à cette époque et non pas créer. Est-ce qu'il y a par moments des petites variantes ou au contraire, ça serait de faire à l'identique, de façon parfaite?
Ah, il y a un petit peu tous les cas.
Quelles sont les dérives?
On a dans la collection de Chantilly deux vases qui sont bien sûr présentés dans l'exposition, des vases de grande dimension, dont on peut se demander s'ils sont du Japon ou de Chantilly. Alors en fait, il y en a un qui vient du Japon et l'autre est la copie conforme en porcelaine tendre de Chantilly. C'est un véritable tour de force d'ailleurs d'avoir des pièces de si grande dimension, ça fait à peu près 35 cm de haut, parce que ces éléments, donc, lorsqu'ils sont cuits, vont se déformer en grand nombre, il va y avoir énormément de pièces qui vont être brisées, qui vont être déformées, qui ne seront pas utilisables. Et donc on voit que les porcelainiers de Chantilly ont copié à l'identique d'après des pièces japonaises. Mais il y a aussi des cas où les porcelainiers vont travailler uniquement d'après les gravures de Fraisse. Donc ils vont reprendre des motifs que Fraisse, qui n'a jamais mis les pieds bien sûr, ni en Chine ni au Japon, va tenter d'interpréter. Quelquefois, il comprend mal les vêtements des Chinois, les objets qu'ils tiennent en main. On a par exemple une des gravures de Fraisse qui représente une scène de repas. Alors il a assis les personnages sur des petits tabourets, ce qui est totalement absurde parce qu'en Asie, bien sûr, on mange assis par terre, accroupi, près du sol, et non pas sur des chaises ou des tabourets comme on le fait nous en Occident. Et puis il va figurer donc des manières de table qui ne sont pas du tout correctes, qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Donc il va interpréter aussi les objets qu'il a. Et ce qui est amusant, c'est qu'avec toutes ces erreurs, avec toutes ces interprétations, ces gravures de fraises vont se retrouver sur des pièces en porcelaine tendre de chantilly. Dans l'exposition, on s'est amusé à 2 ou 3 reprises à montrer tantôt le livre de fraises, l'exemplaire de la BN, qui est l'exemplaire de Bourbon, tantôt notre exemplaire à chantilly, qui a servi à faire le facsimilé des éditions Molinaio, et à le confronter à des pièces en porcelaine qui sont tirées de ces gravures. Donc les confrontations sont tout à fait parlantes, parce qu'on va voir un motif en gravure colorée, et puis on va voir donc le même motif reproduit sur les flancs d'un seau à rafraîchir ou d'une fontaine de table, donc d'une pièce adaptée aux usages européens et produite à Chantilly.
C'est l'intérêt de l'exposition,
c'est, l'intérêt
c'est cette
de l'exposition,
confrontation, pour nous, d'avoir était... rassemblé tout ça.
C'était très important, oui, de confronter d'abord l'original du livre de Fraisse, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, à Tolbiac, dans la réserve des livres imprimés, qui nous a été prêté de façon tout à fait exceptionnelle, et de le confronter aux 2 seaux à rafraîchir, par exemple, qui en sont tirés. Il y en a un qui vient des collections du musée du Louvre. On remercie le musée du Louvre de l'avoir prêté également. Et l'autre exemplaire vient du musée des arts décoratifs. Donc imaginez ces 3 trésors de la porcelaine française du XVIIIe siècle. Une pièce vient de la BN, c'est l'album. Et les 2 pièces qui en sont tirées viennent du Louvre et du musée des arts décoratifs. C'est quand même extraordinaire de les avoir réunies à Chantilly plus de 150 ans après leur création au château.
Voilà, ça, ce sont les coquetteries du château de Chantilly qu'on doit à Nicole Garnier, hein, qu'on vous doit d'avoir
c'est
eu cette
projet
idée.
De recherche intéressant qu'on a mené à bien avec nos collègues du Musée des Arts Décoratifs, avec l'aide des prêteurs, bien sûr, que sont les Bibliothèques Nationales, le Musée du Louvre, le Musée des Arts Décoratifs, mais également des prêteurs privés, dont un prêteur américain qui s'est dessaisi pour nous d'une pièce très importante, qui est un coquetier au dragon, puisque l'exposition s'appelle Singe au dragon. Il y a beaucoup de motifs de dragons sur nos porcelaines, et il y a des pièces qui sont venues des États-Unis, notamment d'une grande collection privée américaine. Du Marie Lou Boone, qui a d'ailleurs soutenu la publication du catalogue.
Alors, décrivez-nous les motifs qui font justement la renommée de ces objets. Vous venez d'évoquer les dragons. Il y a comme ça des éléments récurrents, des singes.
Alors bien sûr, le singe est un élément primordial. Si on a intitulé l'exposition « Singes et dragons », c'est que c'est un élément que les Européens vont tout de suite retenir dans la culture française. Alors le singe, c'est l'animal exotique par excellence. On a en prêt au château, pendant l'exposition, une peinture qui vient du musée des arts décoratifs qui montre des petits singes assis devant une étagère avec des porcelaines. C'est évidemment toute l'évocation de ce qui nous vient de Chine et du Japon au début du XVIIIe siècle. Le singe, c'est l'animal exotique. On est aussi au moment où en Europe, on fait venir des petits singes d'Asie ou d'Afrique d'ailleurs. Et les grandes familles s'enorgueillissent de posséder un tel animal qu'on enchaîne quelquefois et puis qu'on présente. On se fait même éventuellement portraiturer auprès de cet animal. Alors il y a un artiste tout à fait extraordinaire qui travaille à Chantilly dans ces années-là, qui s'appelle Christophe Huet, qui est un peintre animalier, qui vient à Chantilly copier les animaux de la ménagerie, il va aussi à la ménagerie de Versailles copier les animaux du roi, et il va se faire un spécialiste des décors de singerie. Alors qu'est-ce que les décors de singerie? On en a 2 à Chantilly, ce sont des décors absolument merveilleux. Ce sont des décors muraux peints sur bois, sur en général une couche de bois blanc, et on va avoir des arabesques, des motifs de décors d'inventions tout à fait extraordinaires, parmi lesquels vont se nicher des petits singes mais habillés comme des humains, et on va servir en fait de la figure du singe pour se moquer de l'action des hommes en fait et de la façon dont l'homme se situe dans l'univers. Alors dans la grande singerie, qui est un des salons principaux de l'appartement créé par le duc de Bourbon en 1737 à Chantilly et qu'on attribue à Christophe Huet, on va découvrir ainsi des singes peintres, des singes soldats qui vont comme par hasard revêtir l'habit de l'armée de Condé, donc du propriétaire des lieux, le duc de Bourbon, prince de Condé, qui est aussi un grand militaire. Et on craint pas de représenter comme ça le propriétaire de cette maison sous les traits d'un petit singe. On va voir aussi au plafond un singe armé d'une dague, donc qui va porter le coup fatal à un animal de chasse, que ce soit un sanglier ou un daim, puisque Chantilly, bien sûr, c'est avant tout une résidence de vénerie, une résidence de chasse pour les princes de Condé.
Alors très récemment, la singerie de Chantilly a été totalement restaurée, parce que vous étiez venu nous en parler,
oui.
de la singerie.
En 2007, nous avons restauré de fond en comble, grâce à la Fondation de Chantilly et au World Monuments Fund, ce salon extraordinaire de Chantilly, qui est la Grande Singerie. Donc c'est une restauration qui a 4 ans maintenant. L'exposition Singe et Dragon donc invite à revoir la Grande Singerie. Mais au-delà, nous sommes en train de lancer la restauration de la Petite Singerie, un tout petit boudoir de 2 mètres sur 2, dû à la même main, probablement aussi à Christophe Huet, antérieur de 2 ans, qui est le boudoir féminin des princes de Condé. Donc la Petite Singerie va être restaurée très prochainement dans le cadre d'un chantier des monuments historiques sous l'autorité de Pierre-Antoine Gatier et grâce au soutien d'un mécène privé qui est Panhard Développement. Donc grâce à Alain Panhard, nous allons pouvoir restaurer aussi la Petite Singerie après avoir restauré la Grande il y a maintenant 4 ans.
Quel objet d'art, Nicole Garnier, avez-vous choisi pour clore le parcours justement de toutes ces pièces tout aussi exceptionnelles les unes que les autres?
Alors l'exposition se termine au-delà de la Grande Singerie, au-delà de la découverte ou de la redécouverte des grands appartements princiers de Chantilly, sur une pièce totalement exceptionnelle venue de Chine, Il s'agit de la tenture au dragon, c'est-à-dire une grande pièce de soie brodée qui mesure plus de 8 mètres de long, 8 mètres 35 exactement, pas plus de 2 mètres de haut. C'est une pièce extraordinaire, c'est une pièce impériale. Elle présente 41 dragons, armés chacun de 5 griffes. Alors, le dragon à 5 griffes, c'est le symbole de l'empereur de Chine, c'est un animal protecteur. C'est aussi un symbole cosmique, parce que ces 41 dragons, avec leurs griffes, ils jouent à la balle avec un motif clair, argenté. Il s'agit en fait d'une représentation cosmique. Ils chassent une perle, un petit peu comme on joue au palais, avec ces perles, ils courent dans tous les sens, de haut en bas. Ils animent cette tenture.
Oui, ils sont un peu comme dans l'espace.
Ils dansent autour de ces perles qui représentent donc le cosmos, qui représentent l'univers. Et cette soie brodée, donc, c'était un palanquin, c'était un dais qui protégeait l'empereur de Chine. Le motif donc du dragon est lié à la personne même de l'empereur. Cette pièce exceptionnelle est entrée en France en provenance du palais d'été de Pékin à la fin du XIXe siècle. Elle a été acquise par notre donateur Henri d'Orléans, duc d'Aumale. C'est lui qui a donné le château de Chantilly à l'Institut de France en 1886. Duc d'Aumale donc a acheté cette pièce exceptionnelle, l'a fait restaurer, remonter. Elle vient de subir, un siècle et demi après, une nouvelle restauration afin d'être présentée dans l'exposition. Elle rejoindra ensuite, à partir du mois de janvier, la maison de Sylvie, qui est un des bâtiments du parc du château que nous sommes également en train de restaurer grâce au soutien de la Fondation de Chantilly, qui gère le domaine pour l'Institut depuis 2005 et qui va le gérer encore pendant une quinzaine d'années. C'est son attesse Lagacan qui soutient la Fondation de Chantilly et qui permet donc toutes ces restaurations fantastiques qui se font en ce moment même au château.
Donc, on va avoir le plaisir de continuer à voir des singes et des dragons à Chantilly, puisque là, on voit qu'en dehors de la Grande Singerie, on aura encore sous les yeux d'abord ces objets de cette collection extraordinaire, au-delà de l'exposition temporaire, que nous invitons à visiter jusqu'au 2 janvier, ces singes et dragons, la Chine et le Japon à Chantilly au XVIIIe siècle. Il y a un catalogue de l'exposition, et puis il y a ce fameux livre, le fac-similé des livres et dessins chinois d'après les originaux de Perse, des Indes et de la Chine et du Japon sont les modèles de Jean-Antoine Fraisse pour les manufactures du duc de Bourbon en 1735. C'est publié chez Monet Layot. Un très très beau livre. Merci beaucoup Nicole Garnier.
Merci à vous.